J'ai donc recherché quelques passages, et puis ce que j'avais déjà présenté quelque chose sur la prière, et j'ai repris quelques idées que j'ai réassaisonnées au bout d'aujourd'hui. Et ce que je vais partager avec vous, une partie, je l'ai prise sur un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « La prière » de Philippe Yancey, et qui est une belle réflexion sur ce que représente la prière. Mais avant, je voudrais vous parler de cette parabole que Jésus a dite à ses disciples, et nous allons la lire ensemble. Jésus leur adressa une parabole, c'est dans Luc chapitre 8, verset 22, si vous voulez, à partir du verset 1 à 8. Luc 18, je mets 22, excusez-moi, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Cette parabole me fait penser à un voyage à Bruxelles avec maman. J'ai parlé récemment pour les 80 ans de maman, et qui grilla un feu rouge à la barbe et au nez de la police, toute troublée qu'elle était. Et elle pleura toutes les larmes de son corps dans le fourgon, expliquant qu'elle n'était qu'une pauvre veuve, et elle parlait si fort qu'on pouvait l'entendre de la voiture. Mère de trois orphelins, perdue dans Bruxelles. Et l'histoire se termine par une escorte de gendarmes à moto, de policiers à moto, nous ont escortés jusqu'à l'appartement de nos grands-parents. Et les disciples ne comprenaient pas toujours les paraboles de Jésus, mais celle-ci, elle est clairement destinée, et il le dit dans l'introduction, Luc, à leur montrer qu'il faut prier sans se lasser. Dans l'évangile de Luc, ce texte fait suite à un long discours de Jésus sur la fin des temps et son retour. En réponse à une demande des pharisiens, en fait, sur l'avènement du royaume de Dieu. Quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Et il semble que, face au danger que pourra rencontrer l'Église en ces jours terribles, et jusque-là, la prière persévérante n'est pas une option, mais une nécessité. Et on va parler de la prière, mais de la prière persévérante. Et il y a dans cette parabole deux personnages. Il y a un juge qui n'a, selon Jésus, aucune crainte de Dieu et qui n'a d'égard pour aucun homme, et par conséquent sera sans égard, sans conscience et sans cœur dans ses projets et ses actions. Et puis, d'un autre côté, on a une pauvre veuve qui est affligée dans ses affections les plus intimes, semble-t-il, comme maman pouvait l'être, lorsqu'elle s'est dit « on va me prendre mon permis de conduire » ou « je ne sais pas » ou « une grosse amende ». Et en outre, cette femme est opprimée par sa partie adverse. Et la demande de la veuve, elle est légitime. Elle est en droit d'attendre du juge qu'il lui rende justice. Et ce n'est pas une vengeance qu'elle demande, c'est une délivrance par la justice. Et l'utilisation de l'imparfait dans le texte, elle venait, dans l'histoire que raconte Jésus, ça indique qu'elle réitérait sa demande depuis longtemps, et elle le faisait souvent. Sa persévérance fut dans cette histoire le moyen de sa délivrance. Le juge finit par céder à la requête de cette veuve, non par pitié, comme les policiers belges avec maman, car il est inique. Et lui, il est incapable de pitié, incapable de sentiment de compassion, incapable de vivre ce genre d'émotion. Mais il lui donne justice parce qu'elle lui casse la tête et il ne peut plus l'entendre l'importuner. Il en a marre. Il en a marre, ce juge. Il dit, bon, allez, on va lui rendre justice, quoi, j'en peux plus. Et dans cette parabole, Jésus, il enseigne souvent par analogie, mais là, il va enseigner par contraste. Il dit, si ce juge rend justice à cette pauvre veuve alors que lui est sans pitié, sans foi ni loi, à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Et ce texte m'amène à poser deux questions quand même. Pourquoi il faut persévérer dans la prière ? Ou formuler autrement, pourquoi Dieu tarde-t-il à répondre aux prières, surtout lorsque les demandes, elles sont légitimes, hein, comme la guérison de quelqu'un, ou la paix dans le monde, la paix dans une situation de guerre, dans un pays, ou la foi pour son enfant. Et ma deuxième interrogation qu'on verra est que est-ce que ma prière peut changer les desseins de Dieu ? Est-ce que ça change quelque chose que je prie ou que je ne prie pas ? On peut lire dans Malachie 3:6 « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Et il existe beaucoup d'autres textes parlant de l'immuabilité de Dieu. Il est le même hier et aujourd'hui et demain, il sera le même. Pourtant, dans notre texte, Jésus nous invite à persévérer comme pour faire plier la volonté de Dieu. Alors, on trouve aussi d'autres textes dans les Écritures, comme dans Osée 11:8, il y a les deux textes qui s'inscrivent, qui évoquent le fait que Dieu tient compte de nos demandes. « Mon cœur est bouleversé » et il parle au peuple d'Israël qui est dans le péché jusqu'au cou. Hein, et ce peuple est en train de souffrir terriblement à cause de son péché, mais parce que Dieu dit, ben, il l'abandonne à son péché. Et il dit, mon cœur est bouleversé, toutes ensemble, mes compassions se sont émues. À vrai dire, ces deux aspects de Dieu, dans notre imagination, elles sont désirables pour quelqu'un qui prie. Hein, on espère que Dieu ne change pas, mais que Dieu tient compte de nos prières. Et surtout, quelqu'un qui prie et qui le fait avec persévérance. Un Dieu à qui se fier, qui ne change pas, mais aussi un Dieu qui est attentif. Un Dieu qui est sensible pour être influencé. Alors, cela pose un problème. Alors, je sais que tout le monde ne s'intéresse pas aux bases philosophiques de la prière, mais je vais vous demander de l'attention. Parce que c'est important. Si vous voulez vivre une prière persévérante, il faut savoir pourquoi vous le faites de manière persévérante. À quoi ça sert ? Pour ceux qui se posent la question, les conclusions auxquelles on aboutit parfois, ça peut déterminer la perception de l'utilité ou de la futilité de la prière. Origène fut le premier écrivain chrétien connu pour avoir réfléchi sur le paradoxe consistant à s'adresser à un Dieu qui ne change pas. Premièrement, si Dieu savait à l'avance ce qui arrivera, et si cela doit arriver, la prière est alors vaine. Deuxièmement, si tout se déroule selon la volonté de Dieu, si sa volonté est arrêtée et que rien de ce qu'il a décidé ne peut être changé, la prière est alors vaine. Et il y a beaucoup d'auteurs comme Emmanuel Kant, qu'on étudie à l'école, hein, qui nous dépasse un petit peu en philosophie quand on est en terminale, ou même parfois en première. Et puis dans le calvinisme, qui prennent le parti d'un Dieu qui ne change pas. À quoi sert alors la prière dans un monde aussi prédéterminé par Dieu ? La Bible pourtant nous présente Dieu comme une personne qui est attentive et qui est prêt à répondre à nos prières. Et Jésus incarna cet aspect divin, comme ses disciples par la suite d'ailleurs, aux demandes qui lui sont faites. Et la plus célèbre prière que beaucoup d'églises prient, Le Notre Père fut enseigné par Jésus à ses disciples alors qu'il lui demandait « Comment dois-je prier ?» Et en réponse à cette demande de ses disciples, soulignant que Dieu connaît à l'avance tous nos besoins, il leur dit ceci en priant « Ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On connaît la prière. Jacques Ellul écrit ceci dans un livre que je vous conseille aussi, qui s'appelle « L'impossible prière », qui est magnifique. Il dit « La prière relie les fragments éparpillés de la création. Elle rend l'histoire possible. » Alors, c'est une phrase mystérieuse, quoi. Vous imaginez ? De dire que quand je prie, par ma prière, je relie les fragments éparpillés de la création et je rends l'histoire possible. On va développer un petit peu cette idée. Quand on y pense, les grands événements de l'Ancien Testament, la famille d'Abraham, l'ascension de Joseph en Égypte, l'Exode, le pèlerinage du peuple dans le désert, les victoires de Josué et du roi David, la délivrance d'entre les mains de la Syrie et de Babylone, la reconstruction du temple, la venue du Messie, sont autant d'événements qui eurent lieu seulement après les prières, après des supplications du peuple de Dieu. C'est quand le peuple demande, quand l'homme demande, quand l'homme est disposé à faire cette demande à Dieu. Notre Père. Notre Père, Jésus nous invite à considérer Dieu, et on le dit souvent, mais on doit se le répéter, comme un Père, pas comme un Dieu distant. Dieu n'a pas besoin qu'on l'appelle Père, mais c'est pour nous mettre, nous, dans une position d'enfant quand on le prie. Hein, parce que d'enfant face à Dieu, fils et fille du Dieu vivant, si Dieu est amour, il doit être sensible et il doit être compatissant. Et il nous invite plus loin que ça à l'appeler papa. C'est un tendre père qui nous prend sur ses genoux, qui nous embrasse. Pas quelqu'un qu'on appelle père et qu'on ne touche pas, quelqu'un qui est distant. Non, c'est quelqu'un de très proche qui nous fait sauter sur ses genoux. Soit Dieu est un monarque distant, éloigné des détails de ce monde, soit il est un père, un parent, père, mère à la fois. C'est comme ça qu'il est décrit dans les Écritures, comme une poule qui protège ses petits. Affectueux, généreux, sensible, qui est en permanente préoccupation pour le bien de ses enfants. Nos prières sont à ce titre des demandes d'enfants à des parents pleins de sagesse. Lorsque Maëva me demande d'aller au dernier concert de sa chanteuse préférée, je l'écoute, mais je n'y prête pas tout de suite attention, quoi. Mais quand, jour après jour, elle insiste, si cela me semble raisonnable, on en discute avec Marie-Léna et puis on finit par céder parfois. Même si cela n'est pas dans nos plans, même si c'est après le Bataclan, parce qu'on s'était engagé. Avant, Maëva n'aimait pas faire les boutiques, elle aime toujours pas beaucoup faire les boutiques, pour choisir des vêtements, et cela désolait Marie-Léna au départ, qui aurait eu plaisir à faire les boutiques avec elle, pour lui acheter des habits neufs, ne serait-ce qu'une nouvelle paire de chaussures. C'est encore le cas d'ailleurs. Mais dès que Maëva s'intéresse à une paire de chaussures, parce qu'elle en a besoin, ben on lui donne, on lui achète, si cela est dans nos moyens. Mais vous voyez un petit peu l'allégorie. Dieu, il se présente comme un père. Il veut pas dire « je suis différent, je suis un père, mais je suis différent de vous les pères ». Non, de vous les parents. Je réagis pas comme vous. Mais si il y a quelque chose où Dieu veut nous faire comprendre, mais cet amour que j'ai mis dans vos cœurs, c'est cet amour qui m'appartient, cet amour pour vos enfants, c'est cet amour que moi j'ai mis dans vos cœurs. J'ai le même cœur. Vous avez le même cœur que moi. pour vos enfants. Et moi, j'ai le même cœur que vous, pour vous. Mais le mien est parfait. La prière faite par Jésus dans le jardin de Gethsémané n'a pas été exaucée. Non, certaines prières de Jésus n'ont pas été exaucées. Enfin, dans le jardin, il pria trois reprises pour que cette coupe s'éloigne de lui. Et cette coupe, bien sûr, c'était le sacrifice qu'il devait consentir sur cette croix. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre solution que celle-là. Dieu, qu'être séparé de toi, que d'endosser tous les péchés du monde, d'endosser ta colère. Et il pria dans le sang et la sueur pour que Dieu change ses plans pour lui. Mais il fut quand même crucifié. Sa prière ne s'est pas arrêtée à ces trois demandes, parce que après des heures de prière, de lutte, de prière persévérante, il termine sa prière par « Que ta volonté soit faite ». Même si Jésus utilise cette formule pour introduire sa prière modèle ici à Gethsémané, c'est la fin de sa prière. C'est une disposition. C'est une disposition. Et nos prières immatures pour gagner au loto ou pour être plus riche ou devenir plus fort ou plus beau, elles se modifient à la lumière de la présence de Dieu dans une prière persévérante. Nos prières deviennent plus précises. Elles deviennent plus conformes aux réalités de ce monde, aux réalités de notre vie. Et il semble que Dieu cherche à faire quelque chose dans nos cœurs. Dans la prière, nous cherchons à faire que la volonté et les désirs de Dieu sur notre propre vie deviennent aussi les nôtres. Dans sa sagesse, Dieu répond à nos prières et parfois de manière différente de celle que nous avions envisagée. Hein ? Je le dis. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Moi, je me souviens, on avait prié pour partir au Cambodge, au Vietnam, avec Bill et Marie-Claire, et puis après sur un poste au Cambodge, et puis on s'est retrouvés à Madagascar. Et c'était dans les plans de Dieu. Il semble que Dieu veuille faire de nous non des robots, ni même des esclaves ou des serviteurs, mais des partenaires dans sa création. André Murray, pas le tennisman, hein, André Murray, mais l'écrivain théologien, a écrit ceci. La prière était sud-africain. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'André Murray. C'est il a écrit pas mal de bouquins. Et il dit « La prière est le pouvoir par lequel se produisent des choses qui autrement n'auraient pas lieu. » Il y a des textes, ça transpire la parole de Dieu, cette phrase-là. Et C.S. Lewis, qui était un philosophe chrétien du XXe siècle, auteur des Contes de Narnia, était fasciné par les questions qui sont relatives à la prière. En particulier, comment Dieu pouvait écouter des hommes et leur répondre. Il se demandait quelle différence pouvait apporter une faible prière dans un océan invisible du destin et de la providence. Qu'est-ce que ça va changer, ma prière? Qu'est-ce que ma prière persévérante va changer, finalement? Et il utilisa pour y répondre l'argument d'un écrivain américain, Kurt Vonnegut, qui disait « Je pense qu'il est tout à fait impossible que Dieu ait recours aux conseils mal avisés et contradictoires des hommes que nous sommes pour diriger le monde. S'il est omniscient, ne sait-il pas déjà ce qu'il y a de mieux à faire? Et s'il est infiniment bon, ne le fera-t-il pas, que nous prions ou non ?» C'est un argument béton, ça. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Eh bien, Lewis va lui rétorquer quelque chose de très intelligent. À la manière de Jésus, peut-être, et je crois inspiré par l'Esprit. Cet argument ne vaut pas, parce que dans toutes les activités humaines, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi on se laverait les mains? Pourquoi se laver les mains? Si Dieu veut que les voir propres, elles le deviendront sans qu'on les lave. Hein? Pourquoi s'habiller? Pourquoi faire quoi que ce soit? Dieu aurait pu programmer nos corps pour qu'ils se nourrissent miraculeusement sans nourriture. Que les connaissances intègrent notre cerveau sans étude, hein, Richard. Hein? On a rêvé des fois qu'en posant la tête sur un livre et s'endormir dessus, qu'il allait rentrer dans notre tête. Et je soupçonne Richard de l'avoir fait, je vous l'ai déjà dit. Hein. Dieu a choisi une autre méthode pour gouverner le monde. Un partenariat qui dépend de la contribution et des choix de l'homme. Blaise Pascal le dit en ces termes, Dieu... Dieu accorde à l'espèce humaine la dignité de la causalité. Je vous l'écris, c'est écrit là. La dignité de la causalité. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Parce que Dieu veut accomplir son œuvre avec nous, au travers de notre humanité. Il ne veut pas le faire sans nous. On peut donc dire qu'un sceptique ou un incrédule ne proteste pas contre la prière, mais contre les règles de base de la création. Mais la création a été faite pour être supportée par la prière des hommes. C'est les premiers sacrifices de Caïn et Abel. Ça fait partie, la création est faite ainsi. Nous avons été créés comme cela, pour participer entièrement à la création de Dieu. Dieu crée la matière pour qu'elle soit malléable, pour que l'on coupe des arbres pour construire des maisons, pour que l'on dresse des barrages pour faire des réservoirs d'eau, et ensuite même mettre des turbines et faire de l'électricité. Dieu nous a accordé une si grande liberté dans ce monde qu'on a le pouvoir même d'opprimer notre prochain, de nous rebeller contre notre Créateur, et même mettre à mort son propre Fils. Voilà notre liberté. C.S. Lewis nous suggère d'imaginer le monde non comme un État dirigé par un dictateur, mais comme une œuvre d'art, comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre dont le canevas du scénario, il est déjà là. Mais les détails, ce qu'il y a au milieu, eh bien, ce sont les acteurs qui vont le suggérer au fur et à mesure. Vous vous souvenez de Jonas à Ninive, qui est envoyé à Ninive pour leur annoncer que leur ville allait être détruite? Qu'est-ce qui se passe? Il leur annonce, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir. Là, tous, dans votre péché, vous allez crever tous, comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens de Ninive, ils se repentent. Ils se repentent de ce qu'ils font et disent « Mais non, on ne va pas mourir comme ça. » Ils croient dans les paroles de Jonas. L'improbable arrive. Ils se repentent. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple n'est pas détruit. Le peuple n'est pas détruit. C'est deux choses. Un enseignement pour Jonas qui est furax. Parce qu'il a annoncé quelque chose qui n'arrive pas. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Mais pour qui je passe, moi? Moi, je me réjouissais de les voir mourir. » Non, ils se repentent. Et il change un message pour Jonas, mais un message pour nous aussi. Pour nous. On a quelque chose à faire dans ce monde. Les choses peuvent changer. Bien sûr, 400 ans plus tard, Ninive va être complètement détruite. Mais 400 ans plus tard, combien de générations sont passées par la repentance? Vous savez, on dit souvent, c'est pas que le monde entier a été évangélisé. Non, chaque génération doit réévangéliser le monde entier. C'est le rôle de l'Église. On doit réévangéliser le monde entier. Réévangéliser l'Europe. Elle était évangélisée, mais on doit la réévangéliser. Tout recommencer, c'est une nécessité. Et Jésus nous dit, allez vers les nations et annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, visitez les prisonniers, nourrissez les affamés, accueillez les étrangers. Et ne dit pas, je vais le faire à votre place. Il dit, faites-le. Je suis avec vous pour le faire. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé la folie de la prédication. La folie de la prédication de l'évangile. Comment Dieu peut nous donner une telle responsabilité? C'est ça, la prière persévérante. Une responsabilité. Dieu choisit un mode d'action dans lequel ses partenaires humains sont les plus sollicités. La prière, c'était le texte avant, la prière est l'instrument de sa puissance, aussi réel et naturel que tout autre pouvoir que Dieu peut utiliser. C'est l'instrument de la puissance de Dieu. Quand je prie, je mets Dieu en action à travers ma vie, à travers la vie des hommes. Il peut le faire sans nous, mais il ne veut pas le faire sans nous. J'ai besoin de toi pour le faire. Et l'histoire de cette veuve nous incite à prier comme un démarcheur qui place son pied dans l'ouverture de la porte, vous savez. Ah, attendez, j'ai encore quelque chose à vous dire. Hein ? Dérangé, ou comme un catcheur qui tient son adversaire au sol, hein, qui ne veut pas le lâcher, qui se débat, mais non, il ne le lâchera pas. Vous savez ce que signifie Israël ? Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et quand est-ce que lui a été donné ce nom ? À Jacob. Parce qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas voulu le lâcher, il l'a retenu par sa robe. Il dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui tu es, quel est ton nom ?» Et à cause de cela, à cause de cette volonté de Jacob, qui veut dire tricheur, usurpateur, un nom nouveau lui a été donné, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Celui qui lutte avec Dieu. Alors lutter avec, c'est-à-dire contre, mais aussi avec Dieu. Si on est dans cette prière persévérante, on est parfois, où est ta volonté Seigneur? Où est ta volonté? Je recherche ta volonté. Quelle est ta volonté Seigneur? Quelle est ta volonté dans ma vie? Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi Seigneur? Je ne comprends pas. Dis-moi quelle est ta volonté. Et ça va venir. C'est lutter avec. Et Dieu va lutter avec nous, pas contre nous. Une chose a été donnée en plus à Israël, une blessure, une marque, le tendon, une blessure, un tendon. D'ailleurs, les Juifs ne mangent pas le tendon, c'est pas le tendon d'Achille, c'est le tendon qui retient la hanche ici, hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié mon anatomie. Hein, parce que c'est une marque pour Israël, pour Jacob qui est devenu Israël, une marque jamais. Il ne l'oubliera. Parce qu'au fond des choses, la prière, c'est une expérience avec Dieu qui peut, par moments, revêtir des aspects extraordinaires. Un rabbin enseigna que les expériences faites avec Dieu ne peuvent jamais être planifiées ou provoquées. Et il dit, ce sont des moments de grâce spontanée, presque accidentelle. Alors son élève lui demanda, « Rabbin, si prendre conscience de Dieu n'est qu'accidentel, pourquoi nous donner tant de peine avec nos pratiques spirituelles ?» Et le rabbin répondit, « Pour nous approcher le plus possible de ces accidents. » Pourquoi devoir persévérer ? Pourquoi, j'ai bientôt fini, cette femme syrophénicienne doit-elle insister tellement pour que Jésus, vous vous souvenez, pour que Jésus guérisse sa fille, cette femme qui suit Jésus derrière et qui dit « J'ai ma fille qui est... » Je crois qu'elle avait un esprit impur. Pour que sa fille soit guérie. Et au point que ça gêne les disciples et qui dit « Jésus, il dit, tu veux qu'on la mette, qu'on la fasse partir ?» Je crois que c'est Pierre qui nous a prêché, qui a parlé de ça récemment, je ne sais plus. Mais, finalement, Jésus, bien qu'il tarde... Il finit par accorder. Pourquoi Jésus tarde-t-il tant à venir au chevet de Lazare qui est en train de mourir? Et Marthe et Marie ont envoyé un émissaire pour prévenir Jésus. Ton ami est en train de mourir. Elles avaient foi que Christ, que Jésus-Christ pouvait guérir Lazare. Pourquoi, quand Jésus arrive, pourquoi as-tu tant tardé à venir maintenant? Il est mort. Ah, comment on va en arrière ici? Je vais passer. Je reviens. Parce que je ne voudrais pas vous faire louper les... Hop, on est ici. Moi aussi, je me demande comment j'ai appris à faire ça. C'est à force de persévérance. De se tromper. Voilà, la vraie utilité de la prière persévérante n'est pas d'obtenir ce qu'on désire, que de devenir celui ou celle qu'on devrait être. Hein? La prière persévérante ne cesse de me rapprocher de Dieu, avec plusieurs bénédictions à la clé. Tandis que j'épanche mon cœur devant Dieu, que je me soulage, que je me décharge de mes fardeaux, quand je dis « Seigneur, je ne peux plus, c'est au-delà de mes capacités, ce n'est plus ma responsabilité. » Quand je décharge tous ces fardeaux, ce que Dieu nous demande de faire, il dit « Venez, venez, venez à moi. Déchargez-vous de mon fardeau, de vos fardeaux, prenez mon joug à moi, mon joug est doux et mon le fardeau léger. Vous pourrez porter avec moi. » Peu à peu, en apprenant à connaître Dieu dans cette prière, eh ben, je découvre qu'il n'a rien de commun avec un juge unique, bien que parfois j'ai pu en avoir l'impression. Ce que m'apprend le temps que je passe avec Dieu me prépare à discerner ce que Dieu veut accomplir dans ma vie sur la terre, et quel rôle moi je peux jouer dans cette existence, à mon petit niveau, dans ma famille, dans mon église locale, dans mon quartier, dans mon travail, avec mes collègues. Mais c'est difficile de persévérer, surtout quand on ne désire pas vraiment ce que l'on demande, ou si on doute de la volonté de Dieu ou de la capacité qu'a Dieu pour l'accomplir. Persévérer, c'est quand on n'en peut plus. C'est ça que ça veut dire. On ne persévère pas quand on continue. Bon, bah, je continue. Non, quand on n'en peut plus, c'est là qu'on dit le mot persévérer. On dit persévère, continue. Si tu n'en peux plus, c'est un bon signe. C'est à ce moment-là qu'il va se passer des choses. Parce que si tu n'en peux plus et que tu continues à le faire, à ce moment-là, ton cœur, il est prêt à recevoir. Henri Nouwen a écrit... Henri Nouwen, c'est un grand théologien aussi qui a écrit de nombreux livres, un des auteurs chrétiens les plus lus, qui dit « Le paradoxe de la prière est qu'elle requiert des efforts importants tout en ne pouvant être reçue que comme un don. On ne saurait manipuler Dieu ou concevoir ses plans, mais sans discipline rigoureuse, on ne peut pas non plus l'accueillir. » C'est du boulot. C'est du boulot. Et la conclusion de notre parabole ce matin que Jésus donne, elle est on ne peut plus clair. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est bien de la foi dont il s'agit dans la prière. Une foi qui grandit dans l'expérience qu'on fait de Dieu. Cette foi, elle est nourrie par la prière persévérante. Alors, ce message, il a pour but de nous inciter à prier, et parce que la prière, ce n'est pas une option. La prière persévérante n'est pas non plus une option, mais c'est le moyen que Dieu met en place pour nous délivrer de toute oppression. Et la pire de toutes, notre ego. Qui d'entre vous estime que sa vie de prière est insuffisante ? On a tous du travail à faire. On a tous du travail à faire. Et c'est un bon travail. Parce que, je le répète, la vraie utilité de la prière persévérante n'est pas tant d'obtenir ce qu'on désire, je répète des phrases qui ont été dites, que de devenir celui ou celle que l'on devrait être. Dans la prière, nous cherchons à faire que la volonté et les désirs de Dieu sur notre propre vie deviennent aussi les nôtres. Elle est le pouvoir par lequel se produisent des choses qui autrement n'auraient pas lieu. Elle est le moyen par lequel Dieu nous invite au partenariat. Et je conclurai par cette prière franciscaine qui nous incite à la prière. C'est une prière, vous verrez, un peu violente. Mais parfois, elle est nécessaire. Je vais répéter les phrases. Que Dieu te bénisse d'un malaise devant les réponses faciles, les demi-vérités, les relations superficielles pour que tu sois vraiment authentique. Que Dieu t'accorde la colère devant l'injustice, l'oppression et l'exploitation des gens pour que tu te battes pour la justice, la liberté et la paix. Que Dieu te fasse couler, que fasse couler tes larmes devant ceux qui subissent la souffrance, le rejet, la faim et la guerre pour que tu tendes la main en les réconfortant et en transformant leur douleur en joie. Et que Dieu te rende assez fou pour croire que tu peux produire un changement dans le monde, afin que tu réalises ce que les autres croient impossible, et que tu apportes la justice et l'amour aux enfants et aux pauvres. Amen.